bonjour et bienvenue dans les Arts du Flux numéro 20. Arts du Flux, c'est le podcast qui associe théorie et pratique de classe dans l'enseignement du français langue étrangère. Et voilà, ça y est, c'est la rentrée, alors on reprend aussi les podcasts. Pour cette saison 2, eh bien, on commence par le numéro 20, le numéro de la maturité. Au sommaire de ce numéro 20, eh bien, nous aurons des news. On aura aussi un super dossier avec Agatha Chumska qui nous présentera sa méthode La Petite France pour les enfants, pour les jeunes enfants. On fera un point tech avec Babla, bab.la. Et puis on terminera par la rubrique Fourre-tout. Et c'est parti tout de suite pour les news. Et on commence ces news par le site T'enseignes-tu avec plein d'articles pour la rentrée. Donc déjà, vous pouvez avoir le compte-rendu de Cyberlangue où il y avait une bonne partie des auteurs qui y étaient. Il y a aussi un article de Gildas sur les échanges et la collaboration en classe de FLE avec Google Drive. Et puis une fiche pour faire un parcours découverte à Lyon en FLE. Donc ça peut être intéressant pour utiliser ce genre d'activité dans d'autres villes si ça vous intéresse. Sur le site T'enseignes-tu aussi, vous remarquerez donc qu'il y avait l'onglet formation. Donc T'enseignes-tu a commencé déjà à donner des formations. Donc il y a des formations sur les tablettes par exemple. On en parlera avec le prochain numéro des Arts du Fleu avec Laurent qui anime cette formation sur les applications, l'utilisation de tablettes en classe de Fleu. Si vous êtes intéressé par les formations de T'enseignes-tu, eh bien tout simplement sur le site, vous verrez qu'en haut à droite, il y a une petite rubrique formation où vous explique un petit peu les formations qui sont proposées. Vous en avez 4 pour l'instant. Et puis, il ne faut pas hésiter donc à solliciter des formations en remplissant le formulaire de contact. Donc toujours dans l'onglet formation, vous descendez, vous lisez tout le message. Et puis en bas, vous avez un lien qui vous emmène vers un formulaire de contact. Donc vous cliquez simplement sur le formulaire de contact et puis vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Si vous voulez simplement des éclaircissements, si vous voulez demander une formation, vous pouvez passer par là. Et puis, eh bien, si vous voulez rejoindre le projet T'enseignes-tu, c'est aussi par là que ça se passe. Un peu d'auto-news maintenant. Alors, je vous l'ai dit, le prochain numéro sera consacré aux tablettes et aux applications dans la classe de FLE. Donc ça, ce sera avec Laurent Carlier qui viendra ici. Et puis, eh bien, le numéro 22 sera consacré à la classe inversée avec Sophie Lhomme, que je suis très impatient de recevoir. Donc là aussi, vous pouvez poser des questions sur la classe inversée et puis je les transmettrai à Sophie lorsqu'elle viendra pour faire l'interview. Ça, c'est toujours dans la rubrique annonce du site des Arts du FLE. Vous pouvez donc laisser vos questions soit dans les commentaires ou alors sur les divers réseaux sociaux, Facebook, Google+, Twitter, etc. On continue avec le FLE avec Ludovic.fr. Alors vous vous souvenez, il nous avait parlé d'un concours photo sur le thème « J'aime ma vie ». Eh bien, ça y est, ce concours est terminé et il y a donc 3 lauréats dont je ne fais pas partie. Hein, je comprends pas, mais bon, je ne fais pas partie des lauréats. Et vous pouvez donc maintenant voter parmi les 3 photos qui ont été choisies. Ce sont 3 magnifiques photos. Vous votez et puis le gagnant eh bien, gagnera des manuels de français langue étrangère des éditeurs partenaires. On part du côté des experts maintenant avec une nouveauté sur leur site. Vous pouvez vous abonner à la newsletter, donc ça c'est facile. Vous allez sur le site desexpertsfle.com et puis vous verrez qu'en haut à droite, il y a la newsletter. Et donc vous rentrez simplement votre adresse email et vous cliquez sur subscribe. À partir de là, eh bien, vous recevrez toutes les nouveautés, toutes les actualités du site lesexperts.com que je vous recommande fortement. Et on termine avec le blog Agito. Alors là, je suis pas sûr que Fred ait vraiment pris des vacances parce qu'il y a beaucoup d'actualités sur son site. Alors on commence d'abord peut-être avec des photos. Il vous recommande en fait plein de sites pour trouver de belles photos pour pouvoir illustrer vos cours. Il a fait aussi tout un document sur la monnaie européenne, donc avec des euros à découper, et puis il vous donne des tas de conseils pour les utiliser en classe. Il a sorti aussi une gazette, la gazette du FLE, qui s'appelle Agitox, et donc il en est déjà au numéro 3, c'est vous dire s'il ne chôme pas. Et donc cette gazette est vraiment très très bien faite. Je l'ai recommandé plusieurs fois sur Facebook, donc ça prend à chaque fois une dizaine de minutes pour la lire, donc ça va assez vite. En revanche, vous découvrez plein de ressources, alors des nouveaux sites, Vous trouvez aussi des outils TIS pour utiliser en cours, des actualités, des formations, des conférences. Bref, il y a plein de choses. Je vous invite vraiment à la lire assez régulièrement. Pour l'instant, à 3 numéros. Donc, il va assez vite, hein, puisqu'il en est à peu près à un numéro par semaine. Et une dernière chose aussi sur le site Agito, vous avez, quand vous allez sur le blog, en haut à droite, toujours, il y a réseauter. Et donc, en fait, vous pouvez aller sur cet onglet réseauter pour vous inscrire à la communauté Agito. Donc là, vous remplissez un formulaire de contact et puis Fred vous enverra un code pour pouvoir vous inscrire. Sans compter, bien sûr, qu'il faut continuer à fouiller ce site parce qu'il y a des présentations d'outils. Il a présenté TAC, par exemple. Donc, il y a plein de choses à découvrir sur ce site. Il a vraiment beaucoup, beaucoup travaillé. C'est pour ça que je me demande s'il a pris des vacances. C'est terminé pour les news. Et puis, on va passer maintenant au dossier avec Agatha Chumska qui va nous présenter la méthode La Petite France. Alors, je vous demande d'excuser un peu le son qu'on a sur cet entretien, parce qu'on a eu des petits problèmes techniques, mais je vous invite vraiment à écouter ce qu'elle dit, parce que ce qu'elle raconte est très intéressant, et puis vous pourrez même l'écouter chanter, vous verrez qu'elle a une très belle voix, puisque c'est elle-même qui a enregistré toutes les chansons qui accompagnent sa méthode. Alors aujourd'hui, pour ce numéro spécial sur l'enseignement aux enfants, je reçois Agatha Chumska, auteure de la méthode La Petite France, qui est une méthode de français pour les 2 à 6 ans et pour les 7 à 8 ans. Elle est aussi enseignante, ce qui lui permet de tester sa méthode directement dans les classes. Et puis, cofondatrice du centre La Petite France à Josepo, à côté de Varsovie, en Pologne. Bonjour Agatha.
Bonjour Sébastien, enchanté.
Alors Agatha, on parlait donc de ta méthode La Petite France. Est-ce que tu pourrais nous la présenter brièvement pour nous parler un peu du public, du matériel, etc.
Oui, donc la méthode La Petite France est une méthode que j'ai créée pour les enfants de 2 ans et demi jusqu'à 6 ans et puis pour les enfants de 7 à 8 ans. Donc, mes petits élèves ont grandi, on a eu besoin d'avoir pour eux la suite. Donc, j'ai commencé à créer les supports pour enseigner le français aux petits-enfants. Quand je suis revenue de France, après six ans de ma vie à Strasbourg, et j'ai commencé à enseigner le français à l'école maternelle de mon fils. Et très vite, je me suis rendu compte qu'il me manque d'outils, qu'il me manque de supports pour enseigner le français aux petits-enfants d'une façon efficace. Parce qu'enseigner avec des chansons connues par tout le monde, comme Jean Petit qui danse, Savez-vous planter les choux, et d'autres chansons dont je me sers aussi dans ma méthode, parce que c'est important que les enfants apprennent les chansons traditionnelles françaises. Mais au niveau de la communication, ce n'était pas trop intéressant. Donc, je commençais à réfléchir, à créer, j'ai commencé à chercher les outils. J'ai commencé à chercher une façon de les mettre ensemble pour que ça soit efficace et pour que les enfants, même s'ils ont le français une fois par semaine pendant un an, pendant deux ans, pour que les petits enfants soient capables d'apprendre quelque chose et de le réutiliser dans la vie quotidienne.
Et d'ailleurs, pour cette méthode, tu préconises combien d'heures de français par semaine?
Soit une fois par semaine, 40 minutes, en sachant que 30 minutes se passent uniquement en français. Et je voudrais en faire attention pour que la rencontre dure quand même 40 minutes, parce qu'on a besoin, avec des petits enfants, de vanter leurs nouvelles chaussures, de entrer en relation. Mmh. Donc, c'est aussi pour la sécurité, donc pour le sentiment de sécurité. Donc, on se dit bonjour, voici les enfants ont besoin, c'est pas toujours le cas. Et après 3-4 minutes, avec notre chanson rituelle, on fait un voyage imaginaire et on se retrouve à la piscine. Et là, tout se passe en français. Ça dure 30 minutes, donc le cours, il y a des activités qui s'enchaînent tout le temps, et il n'y a pas de place pour que l'espace, pour que le temps pour que ça soit, comment dire, vide des phrases entendues ou prononcées des activités. Il y a toujours des activités qui se passent, on change, voilà, ça dure 30-35 minutes. Et à la fin, avec notre chanson, on retourne à notre pays d'origine. Voilà.
D'accord.
Donc c'est une fois par semaine, c'est déjà efficace, donc je veux dire, ou 2 fois par semaine, 40 minutes, ça dépend des possibilités des enfants, des parents pour accompagner leurs enfants. Et après, il y a aussi donc du matériel à travailler avec les enfants à la maison. Si les parents ont envie et qu'ils ont le temps de travailler avec les enfants, on a des supports pour ça. Voilà. Donc, je commençais à créer ma méthode surtout pour mes enfants qui sont nés en France. Et petit à petit, j'ai commencé à créer des chansons. J'ai eu besoin de mes propres dessins pour réaliser mes idées. Donc, j'ai commencé à les commander chez les graphistes. Puis, j'ai participé à un stage organisé par Kelem à Paris où j'ai commencé à apprécier l'importance des portfolios et des travaux aussi, je ne veux pas dire classiques parce que je ne perds pas le temps pendant les cours pour colorier. Si je propose une carte de travail, il y a des images prédécoupées, il y a donc des cartes de travail préfabriquées pour que ça soit vraiment rapide et qu'il y ait des supports pleins de couleurs et pour que l'action accompagne les phrases entendues, les phrases prononcées et non 10 minutes de coloriage. Ça n'a pas de sens sur le point de vue didactique et je n'ai pas le temps pendant mes cours pour cela. Mais comme moi je ne suis pas très douée pour tout ce qui est plastique, donc je négligeais un petit peu ça au début, mais après donc ce stage, j'ai inventé. En fait, je pas créé, c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai eu des idées comment préparer les cartes de travail. Je demandais à quelqu'un de compétent de le faire aussi. Et finalement, donc, la méthode a été, on peut dire, complète. Donc, il y a eu tout ce qu'il faut pour les enfants, pour enseigner aux enfants. Ce qui est important, c'est de dire que le fait que tout le monde dit. Nous, on enseigne aux enfants par les jeux. En fait, ce n'est pas une découverte. On ne peut pas enseigner aux enfants d'une autre façon qu'en jouant. Mais ce qui est très important dans la méthode, c'est que, à part des idées, à part les idées que j'ai eues, donc les mascottes, les scènes, les jeux de société, bingo, loto, domino, les chansons, les activités où on bouge, les cartes de travail, les cartes de bricolage, et tout ça autour d'un sujet, et tout ça lié par une idée, et puis qu'on peut après développer pendant d'autres cours, à part juste des idées, il y a quelque chose qui avait été réalisé et qui est toujours réalisé et va être encore amélioré. Ça veut dire qu'il y a des supports tout prêt pour permettre aux profs non expérimentés ou aux profs très expérimentés, mais qui sont toujours très créatifs, de travailler avec la méthode la plus simple.
Oui, donc soit ils suivent vraiment au pied de la lettre la méthode, soit ils l'utilisent comme support de cours et après ils peuvent avoir une certaine marge de manœuvre pour apporter leurs propres idées.
C'est très bienvenu. Donc, il y a des scénarios. Des scénarios très dynamiques qui permettent aux enfants d'apprendre le français d'usage quotidien. Les
Alors
scénarios.
justement, peut-être sur ces scénarios, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, parce que c'est assez original dans cette méthode. C'est pas quelque chose qu'on retrouve partout dans toutes les méthodes, hein.
Oui, donc chaque séquence, chaque scénario est structuré de la même façon, ce qui a pour but de rassurer les petits. Mais ce n'est pas pour autant que l'enfant s'ennuie. Au contraire, les scénarios présentés dans les manuels que je propose sont modifiables, ouverts à la créativité du professeur. Mais il y a certains rituels. Pour mettre en place ces rituels, on a besoin des supports créés par l'auteur de formule. Donc, chaque cours est ouvert par un voyage imaginaire en France. Et ça commence par une chanson. Les chansons sont bien sûr enregistrées d'une bonne qualité. Ou que les profs ne savent pas chanter, ne soient pas gênés. Ou tout simplement, si par exemple j'ai 4 ou 5 cours dans la journée, j'en ai un peu marre de chanter « En bateau, nous allons en France, en bateau, en hélicoptère ». Donc j'en ai un peu marre, on peut être fatigué, mais j'aime bien la chantant. Donc, il y a un CD. Sur le premier CD, il y a une trentaine de chansons où il y a aussi des chansons, je les ai appelées les chansons comment dire, inspiration, parce qu'il y a Jean Petit Danse aussi, comme j'avais dit au début, Savez-vous planter les choux, J'ai un grand nœud rouge, ce sont des chansons qui sont dans chaque manuel connu pour enseigner aux enfants. Mais après, j'ai proposé aussi des chansons, par exemple, Savez-vous planter les choux avec Mia, donc la brebis Mia. Savez-vous planter les choux avec Mia? On les plante avec la pâte. Et il y a des dessins d'un jour, les enfants apprennent le mot la pâte, la queue. Donc c'est pour rigoler, pour enseigner aux enfants les chansons traditionnelles, mais pour comment dire, pour les glisser dans la méthode. Mais il y en a juste quelques-unes. Après, il y a des chansons que j'ai créées, voilà, pour enseigner le vocabulaire bien spécifique à un sujet donné, par exemple, comme tout le monde, les habits, les jouets, la nourriture, mais c'est toujours dans un contexte, c'est toujours pour enseigner aussi le mot dans une phrase. Par exemple, donc il y a une scène, Yaroslav, il est en colère. Mia, où est ma chemise? Oh là là, où est ma chemise? Et donc on joue une scène. Et Mia dit, oh là là, Yaroslav, où est ta chemise? Donc on joue. Et puis il y a une chanson. Où est ma chemise? Où est ma chemise? Où est ma chemise? Où elle est là? Voilà. Donc la chanson. Donc on peut juste aux enfants tout petits, on peut leur proposer 3 habits, 3 petites scènes, et puis un jeu où il y aura juste ces 3 habits. Voilà, mais cette chanson, dans la chanson qui est enregistrée, il y a cet habit de Yaroslav. Et il y a des jeux pour enseigner le vocabulaire lié à ces, voilà, à ces, à tout ce vocabulaire. Donc, du coup, tu vois bien que la chanson, on enseigne juste où est et les noms des habits. Mais c'est beaucoup plus large, en fait. Parce qu'aux enfants, un adulte pourra apprendre ça, je sais pas, s'il a doué. 2, 3 minutes et il sait lire. Après, peut-être il oublie. Mais ce qui est important dans la méthode, c'est que le français est vivant pour l'enfant et qu'il va être après associé à quelque chose de magnifique, à quelque chose de à un rêve, on peut dire, quelque chose, le monde d'enfant, le monde d'imagination. Voilà.
D'accord. Donc si je résume un petit peu ces scénarios, donc tu pars en voyage imaginaire en France, il y a une situation donc avec les deux mascottes hein, sur lesquelles on reviendra un petit peu, et puis ensuite des chansons pour apprendre les structures, des jeux pour réutiliser un petit peu tout ce qu'on a vu, et à la fin, c'est ça, on revient dans son pays d'origine.
À la fin, oui, mais on fait très attention pour que pendant chaque cours, donc il y ait des activités variées, donc une scène, des jeux d'action, en fait, où on bouge. Il y a toujours, en effet, en fait, il y a du temps. Une carte de travail, une carte de bricolage. Oui, et on essaye aussi d'apprendre le français par les 5 sens. Donc le français est abordé par les 5 sens, 5 sens, ce qui donne autant de voies d'apprentissage pour les petits. Donc la participation active des enfants est sollicitée en permanence par la manipulation d'objets concrets, ou par exemple à chaque fois, et il y a aussi pour ça, il y a aussi une chanson qui intitule les 5 sens. Tout simple, je sens quelque chose, je vois quelque chose avec mon nez qui se trompe pas. Donc de nouveau, on peut la réutiliser pendant toute l'année en prenant un petit morceau, un petit fragment, et en appliquant cette chanson pour une activité. Voilà. Donc il y a des scénarios qui sont écrits, qui sont conçus de cette manière-là, et il y a des scénarios qui sont progressifs. Donc, pour un prof qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais il a beaucoup envie de travailler avec les enfants, et il est enthousiaste, donc lui, il peut se sentir en sécurité parce qu'il a dans son kit toutes les chansons, tous les jeux qui sont compatibles au niveau du contenu lexical, grammatical, avec les chansons, avec le contenu des cours. Il a tous les dessins. Donc, là, c'est pas 500, 600, je vais pas encore compter. Il a des cartes de travail tout prêts pour les impliquer pendant les scénarios, pendant les cours.
Je disais que oui, c'est important parce que comme tu le disais, hein, c'est très minuté les cours pour les enfants, les préparations de cours pour les enfants, c'est extrêmement précis, contrairement aux cours avec les adultes qui durent parfois 3 heures, on a beaucoup de marge pour pouvoir faire durer une activité en raccourcir une, etc. Là, avec les enfants, c'est vraiment très court, très minuté. Donc quand on a toute cette préparation-là en main, c'est vrai qu'on part un petit peu plus confiant et aussi plus en sécurité du point de vue du prof, hein.
Tout à fait. Et c'est, il faut dire ce qui est très important, il faut le souligner, que ce ne sont pas des idées. En fait, après, il y a aussi des idées. Ça, je voulais y revenir. Après, il y a aussi des idées, je veux dire, dont on peut se servir en fonction de sa créativité, de son imagination. Mais surtout, le premier manuel conçu pour le prof, il propose des scénarios en spirale déjà, donc des scénarios déjà avec des activités qui s'enchaînent. Donc le prof n'a pas besoin d'inventer son programme des cours. Mais il est guidé, ce qui n'empêche pas comment dire, de profiter des chansons, par exemple, qui ont été créées après, du deuxième CD. Parce que c'est vrai que la méthode... j'ai inventé le premier CD, et au fur et à mesure de j'ai travaillé, et après 2 ans de mon travail, il y a eu le deuxième CD avec une quarantaine de chansons. Ce sont des chansons aussi thématiques, par exemple, je suis en colère, je suis malade, tout ça possible. Donc, si un prof expérimenté qui commence avec le premier manuel, quelque part glisser une chanson qui plaît, s'il trouve que le groupe est prêt, s'il sait comment après utiliser le jeu pour enseigner cette chanson-là. Donc ça, c'est très flexible. Mais il y a des scénarios en spirale progressifs, et après il y a le deuxième manuel, la deuxième partie aussi en spirale, donc où on écrit le prof fait ça et ça. Parfois c'est même exagéré. Après, je voulais pas être ridicule, donc je commençais à, je le fais plus, mais le premier guide, c'est vraiment, on tient un peu le prof par la main. Mais voilà, c'est pour faciliter les choses. Et puis, j'ai aussi des enregistrements. Donc, moi, je suis enregistrée les 3 premiers cours, où on montre comment, on montre la mise en place. Donc, il y a des scénarios, et après, on voit qu'à la lettre, je fais ce qui a été écrit dans les scénarios.
Ouais, puis tu mets plein d'indications aussi sur le matériel à apporter, les cartes à utiliser, etc. Dans ce que j'ai vu, effectivement, il y avait des trucs, il fallait ramener des miettes, des choses comme ça, des légumes.
Tout à fait, écrit des petits, même des détails, parce que c'est ça en fait qui est important dans la méthode. Le prof n'a pas besoin de chercher sur Internet des dessins, des chansons. Donc c'est ça ce que j'avais observé en fait. Moi aussi j'ai enseigné aux enfants quand je suis revenue de France il y a 6 ans, et j'ai enseigné avec des méthodes traditionnelles, et je me suis vite rendu compte que souvent les profs qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants? Le vocabulaire. On leur enseigne le porc, la vache, le chat. Mais ça n'a pas de sens comme ça, je pense. Moi aussi, j'ai une chanson avec ce vocabulaire-là, mais c'est toujours lié dans un contexte. Donc, par exemple, Minia qui vient, qui se présente et qui chante « Je suis la vraie vie et je m'appelle Minia ». Et puis, il y a Roslav qui vient et qui chante « Je suis le chien et je m'appelle Yaroslav ». Et il y a d'autres animaux. Donc la chanson animaux, mais l'objectif ce n'est pas comment dire, de faire des enfants des dictionnaires vivants, mais c'est d'enseigner la structure je suis, puis le nom des animaux, ça vient comme ça parce que c'est très proche aux enfants. Et puis il y a des cartes, des jeux pour enseigner cette structure-là, donc une scène, une carte de travail, plein de choses. Et après quelques cours, je sais pas, même dans la deuxième année, pendant la deuxième année, si on travaille avec des enfants plus âgés, on va y revenir. Par exemple, on fait une nouvelle chanson, je suis malade, j'ai mal à la gorge, j'ai mal aux yeux. Et il y aura, je sais pas, une chèvre qui viendra, qui chantera, je suis la chèvre, je m'appelle. Donc, ce sera une révision pour ceux qui avaient vu la chanson. Et pour ceux qui, il y a aussi des enfants parfois qui rejoignent un groupe, surtout dans les écoles maternelles. Le contexte va être tellement naturel que l'enfant va vite comprendre de ce qu'il s'agit. Voilà.
Et d'ailleurs, oui, alors tu parlais de Minia et Yaroslav. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces mascottes?
Oui, donc oui. Donc dès la première séance, l'introduction de ces mascottes, de la brebis Minia et du chien Yaroslav, permet aux enfants de s'identifier et de comprendre la langue par les mises en scène régulières. Les aventures de nos deux héros vont amener les enfants à aborder des sujets simples et proches de leur réalité quotidienne. Ceci est important pour le prof. Il est très important ce qui est important, c'est d'apporter de la nouveauté et de l'humour en faisant vivre Mia et Yaroslav. C'est au prof d'inventer sa façon de faire vivre la peluche, en sachant que Mia est plutôt spontanée, un peu naïve, très émotive, et agit de bon cœur. Et Yaroslav, lui, il est très intelligent, généreux, fragile et sensible, même si il ne le montre pas. Il aime tous les animaux, mais avant tout sa brebis. Il est un peu son guide. Et ses peluches sont très, deviennent vite très proches des enfants. Juste au début des cours, il regarde des animaux sérieux. Et puis ils sont très importants, voilà, pour montrer aux enfants qu'ils ont un petit peu les mêmes problèmes que les enfants. Même on s'en sert aussi en jouant. Si, par exemple, ça c'est une idée qui m'est venue il y a 2 ans, à chaque fois, c'est aussi la question des pratiques, chaque fois qu'on joue avec des enfants petits, il y a le problème de la perte. C'est toujours, oh non, on a perdu, même si c'est tout bête, 10 ans, le temps, oh là là, des pleurs, et ce que je fais, c'est Mia qui joue et c'est Yaroslav qui joue. Donc, il y a une équipe de Mia et il y a une équipe de Yaroslav. Du coup, chaque enfant, parce que je travaille toujours en cercle, chaque enfant lance par exemple le dé et c'est Minia qui se déplace. L'autre enfant qui lance, c'est pas pour son équipe à lui, mais c'est pour Yaroslav, etc. Et du coup, même si Minia a perdu, qu'est-ce que je fais? Bah, je reviens à ma chanson. Minia, Minia, ne pleure pas. Minia, je mal chantais. Minia, Minia, ne pleure pas. Minia, Minia, ne sois pas triste. Minia, Minia, ne pleure pas. Et on dit, voilà, c'est pas grave que tu as perdu, c'est pas grave, voilà. Donc du coup, on voit encore une fois l'intérêt des chansons. Les chansons sont réfléchies d'une telle manière pour qu'on puisse réutiliser, souvent, à chaque fois, donc elles sont tellement simples, mais tellement, comment dire, tellement, je veux dire, simples, utiles au quotidien. Et on peut les mettre dans des différents scénarios. Quand je fais mes formations, pendant mes formations, j'essaie de montrer aux professeurs, à mes franchisés, comment devenir indépendants de mes scénarios. Donc, d'un côté, il y a des scénarios tout prêts. Dont ils peuvent se servir, voilà, les cours, ils discutent souvent. Ah, moi, je fais déjà ça au 18e. Ça me fait penser, donc, ça me, là, je commence à, je réalise que eux, ils servent vraiment, parce que moi, j'y vais, je fais mes cours comme je veux, quoi, mais je suis l'auteur aussi, donc c'est un peu différent. Eux, ils servent vraiment, vraiment, ils font un scénario après l'autre. Et moi, mon objectif, c'est de leur montrer que, à partir de mes 70 chansons, de mes 50 jeux maintenant refaits par une graphiste, vraiment, je suis très fière, très contente. Il y a un nouveau projet qui évolue quelque part dans ma tête. Je leur montre qu'à partir de ce support-là, on peut faire, je sais pas, une centaine de scénarios tout neufs. Parce que l'objectif dans l'enseignement des petits enfants, c'est de leur enseigner des petits, pas beaucoup de contenu, mais toujours dans un contexte variés, drôles, intéressants, donc les mêmes structures, les mêmes mots. Bah, on ajoute toujours quelque chose, mais dans un contexte toujours d'une autre façon. Et c'est ça, qui est pénible pour les profs qui débutent, en fait, et pour les profs qui n'ont pas du tout. Et ça m'a pris des années. Ce n'est pas quelque chose que je n'ai pas dit, ah, vous faites ça, et ça, vous faites ça, et ça, voilà, il y a une méthode. C'est quelque chose qui a été travaillé, élaboré, réfléchi, testé, refait. J'ai fait travailler mes profs avec mes supports pour pouvoir enfin revenir donc à une méthode complète que je pu commencer à la vendre dans le sens où c'était prêt pour pouvoir travailler avec, même si elle n'était pas en contact régulier avec moi, je veux dire.
Ouais, moi ce que je trouve justement génial avec ces mascottes, et comme tu le disais, après on peut leur faire faire n'importe quelle aventure, n'importe quel scénario. C'est la grosse différence qu'il peut y avoir avec une méthode un peu plus classique où on retrouve pas exactement le concept de mascotte, mais tu sais, on a toujours les personnages qui reviennent d'une unité à l'autre, on les voit grandir, etc. Une famille, et puis on suit leurs aventures. Là, finalement, c'est très facile puisque on a deux peluches en main de pouvoir leur faire vivre d'autres choses qui collent un petit peu plus avec la réalité des enfants qu'on a devant soi, plutôt que d'être obligé, ben, à cause de la bande dessinée, à cause des vidéos, de suivre la méthode pas à pas. Là, tu laisses du coup la possibilité de donner vie au personnage de la méthode, quoi.
Oui. Ce qui est très important aussi, c'est tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais je voudrais ajouter que la méthode est ouverte. On m'a posé une question, pourquoi tu ne la vends pas comme ça? Pourquoi tu n'entres pas en coopération avec une grande maison d'édition? Bah, je n'ai pas eu de proposition, mais je ne la voudrais pas. Je veux dire, parce que c'est moi qui décide. Déjà, c'est moi qui décide ce qui va être pas forcément publié, parce que je ne publie pas pour les magasins. Mais c'est moi qui fournis tous les supports importants. Personne ne dira, ah, ça, il n'y a pas de place pour ça, c'est pas important. Et j'ai toujours un petit contrôle, bah, pas un petit contrôle, j'ai l'impression que, parce que le prof utilise mes supports, j'ai le contrôle sur la qualité des cours. Parce qu'à mon avis, quelqu'un qui a envie, qui est enthousiaste, ne peut pas, qui a la personnalité. Parce que quelqu'un qui est timide, qui n'aime pas les gens, bah, il va pas réussir, ça c'est sûr. Il n'y a pas de place pour un échec dans l'enseignement des petits si quelqu'un en vit. Mais ce qui est encore important, comme tu dis, le nombre des peluches, les mascottes, mais ça, on pourrait dire tout de suite, oui, donc je prends un ours, je l'appelle maman, ou je sais pas comment, on aura la même chose. Donc, attends, en fait, on peut prendre les peluches. Ce n'est pas non plus quelque chose de révolutionnaire. Je le souligne, c'est très important. C'est pas les peluches, c'est pas les jeux, c'est pas. Parce que pendant chaque formation, s'il y a un formateur qui a un niveau quoi, satisfaisant, bah, il va dire la même chose. C'est pas ça qui est révolutionnaire ou important, je sais pas comment dire. Ce qui est important, ce sont les supports qui ont été créés. Enregistré, dessiné, conçu, pour garder la spirale et en même temps pour permettre de créer toujours de nouveaux scénarios qui en place. Et ah, j'ai pas encore parlé des photos. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Je prenais des photos des peluches depuis des années, mais il y a eu quelque chose qui coinçait, que j'étais pas sûre. En fait, même mes profs, pendant la formation, disaient, ah, on n'est pas sûr comment s'en servir. Et là, j'ai commencé à créer déjà, premièrement, des photos de meilleure qualité, et deuxièmement, histoire photo, vraiment, 5, 6, 7 photos, toutes simples aussi, avec une mise en cours. Donc, j'explique, on commence toujours par une scène, pour introduire, donc, histoire photo, une scène avec des peluches, exemple, Mia essaye des chapeaux. Oh là là, il y a trop de fleurs! On peut commencer, on peut se servir de la chanson. Ouais, mon chapeau, ne pas dans ça rien. Une scène, et puis une histoire des photos. Mia, on était à la Côte d'Azur cette année, donc j'ai pris des photos de Mia, en chapeau, en paille, de différentes couleurs. Donc les enfants adorent. Eux, il faut le voir, ils sont vraiment impressionnés. Ouah, Mia, elle a mis son chapeau rouge. Oh, là, c'était un chapeau rouge. Donc des photos, mais ça, c'est ça qui apporte quelque chose de vrai. pendant le cours. Donc, ils faire photos, ils ont écrit, j'explique comment s'en servir et je propose des activités pour un cours complet. Donc là, on passe à autre chose, on passe, donc les profs qui sont capables déjà de se servir des scénarios, qui connaissent déjà la méthode, peuvent la diversifier avec les histoires de photos au choix, comme ça, histoire chapeau, histoire jouée à la pétanque, donc il y en a plein. Et mes profs aussi, eux, de même on peut dire, ils proposent sur notre site Facebook les petits français Polska, les petits français Pologne, s'il y a une prof qui a quelque chose d'intéressant, elle écrit, hey, les filles, regardez les photos pour travailler la chanson Yaroslav entend. Il y a une chanson Yaroslav chante, j'entends les poules, on entend, j'entends les vaches, et donc il y a une fille qui a pris des photos Yaroslav avec les vaches, donc c'est quelque chose de vivant. Ça évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ça qui donne envie, en fait, plus il y a des franchisés, plus il y a des idées. Donc, moi, je donne des supports, comment dire, licenciés, bah, je veux dire, c'est moi qui dis, c'est des qualités, bah, c'est moi qui signe. Et puis, il y a des choses qui évoluent avec les profs qui sont formés, qui travaillent et qui ont leurs idées et les partagent avec d'autres collègues. Par exemple, à la Mélodie, j'aime la galette, Mia qui est gourmande chante, j'aime beaucoup la glace, mais ne mange pas trop, voilà une chanson qui vient, la suite est sortie enregistrée. Il y a un petit qui a inventé, Yaroslav qui chante, j'aime beaucoup les raisins, et on chante, et on mange beaucoup. Ça, c'est bon pour la santé, par exemple, n'est-ce pas? Donc, il y a des choses qui se font tout seul. Ça évolue, ça grandit.
Ouais. Et on peut imaginer d'ailleurs que les enfants puissent embarquer les mascottes le week-end et puis ensuite raconter un peu ce qu'ils ont fait en les prenant en photo. Je sais pas s'ils ont fait une promenade et qu'ils ont emmené les mascottes, tout ça.
Non, pas vraiment. En fait, tu veux les mascottes, ce ne sont pas n'importe quelles mascottes. Ce sont les mascottes de l'école, donc que je fais, comment dire, coudre, on dit.
Ah d'accord, ouais, tu les as créés complètement quoi.
Oui, ce sont des mascottes de terre, donc ce sont des mascottes qui sont toujours régulièrement fabriquées, artisanales, on peut dire. Il y a une femme qui l'a fait pour moi. Voilà, donc mes profs, si quelqu'un entre dans le réseau des petits Français, il achète le kit, le pack franchise, bah il y a aussi dans ce kit, je l'appelle kit, il y a aussi deux peluches, donc peluches de Minia et de Yaroslav. Donc ce sont des peluches utilisées pendant les cours. On fait parfois des ateliers où les enfants on prend des photos, où les enfants peuvent jouer dans notre école. Ce ne sont pas les mascottes qui sont accessibles comme ça pour les prendre à la maison. Par contre, je préparais des manuels pour les parents, parce que souvent quand nous on fait ici une promotion de la langue française, même pas une suite parce qu'on a un centre de la langue française, et il faut vraiment je veux pas dire se battre pour les élèves, mais je veux dire l'anglais tout le monde le veut, l'espagnol est très à la mode. Et le français, bah je pense que quand les gens voient notre investissement dans l'enseignement de cette langue, et quand les gens voient qu'on a vraiment des supports intéressants, qu'il y a voilà même cette méthode, les gens sourire souvent quand je vois Mia Yaroslav, ou dire bonjour. Donc là, il faut quand même convaincre les gens qu'ils apprennent, qu'ils commencent à, qu'ils inscrivent leurs enfants en français.
Et donc tu aides les parents à travailler à la maison avec les enfants, c'est ça?
Je veux dire, oui, mais oui, j'y vais. Mais je voulais dire que, bon, ils disent, ah, moi, je connais pas le français, je pourrais pas aider, mon enfant à apprendre. Donc du coup, ce que je propose, il y a deux manuels, et chaque chanson, il y a le texte de la chanson en français, à côté en polonais, et une activité à faire en polonais aussi. Donc tout simple, vraiment, c'est juste pour encourager les parents à écouter à la maison les chansons avec les enfants. Tout simple, si par exemple il y a une chanson c'est Mia, c'est Yaroslav, c'est Yaroslav, c'est Mia. Donc, Mia montre Yaroslav quand tu entends le nom de Mia, de la brebis, tu montres Mia quand tu entends le nom de Yaroslav, tu montres Yaroslav. Toujours l'objectif est toujours le même, c'est de permettre aux parents de lire le texte en français, comprendre en polonais, pour aider les enfants à apprendre la chanson. Voilà. Donc il y a des coloriages aussi. Donc à l'extrait, le manuel est en noir et blanc pour ne pas pour permettre aux enfants de se concentrer sur ce qu'ils entendent, voilà, et de faire l'activité demandée d'en faire parler.
Ouais, c'est vrai que bah, on avait reçu Marie dans le numéro 3 qui était prof dans une école bilingue et qui disait que le soutien des parents dans l'apprentissage d'une langue étrangère pour les enfants était très important, quoi. Donc
Oui.
là, le manuel pour les parents, c'est une très bonne idée aussi.
Oui, j'envisage aussi, parce que la méthode se développe, et c'est vrai que, comme dit, au début, c'était de 2 ans à 6. C'est vrai que la marche est assez grande, mais il est vrai, je l'ai expérimenté, que j'ai eu des groupes, des enfants où il y avait, par exemple, un enfant de 3 ans, un enfant de 6 ans, et ça a super bien marché. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants de 3 ans qui sont tout de suite prêts à parler, à répéter, à jouer des scènes. Il y a des enfants de 6 ans qui n'ont pas du tout envie de parler, qui sont méfiants, voilà. Donc, le groupe, comment dire, où il y a des enfants de plusieurs âges, permet souvent aux enfants de se sentir en sécurité. On n'attend jamais, en fait, on ne force jamais l'enfant à parler. On lui laisse prendre son temps. Voilà. Mais
D'accord.
normalement, maintenant, j'essaie de faire des groupes de, disons, 2, 3 ans, 4, 5. 6 ans, c'est toujours à la frontière, parce qu'il y a des enfants qui sont tout de suite prêts à commencer à travailler avec la méthode 7-8-11. Donc là, j'ai inventé des jeux plus adaptés aux enfants plus grands et des cartes de travail déjà avec le texte. Et il y a des enfants de 6 ans qui se sentent très bien dans un groupe de 4-5 ans. Donc ça, c'est vraiment, il faut être toujours flexible en fonction du groupe, en fonction de personnes qu'on a devant nous, des enfants qu'on a devant nous.
D'accord. Et tu disais donc cette méthode, elle n'était pas en vente chez les libraires ou chez les éditeurs. Et tu parlais aussi du concept de franchise. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement comment tu fonctionnes, si on veut utiliser ta méthode, comment on peut faire toutes ces choses-là?
Tout à fait. Donc, moi, je ne suis pas du tout businessman ou businesswoman de formation. Et ce qui est marrant, c'est que le concept de la franchise, j'ai découvert tout doucement, on peut dire, sur le tas. Donc, c'est un petit peu une intuition qui m'a guidée. En tout cas, c'est vrai, c'est peut-être aussi à cause de ma personnalité et de mon fonctionnement un petit peu sur tout ce qui est relationnel. Donc, je préfère toujours parler et pas écrire des mails. C'est quelque chose qui, j'aime bien le contact. Je préfère l'entretien sur Skype, quoi, écrire, parce que je vois beaucoup plus de choses sur la personne quand je l'entends, je la vois. Voilà. Et donc, je voulais avoir le contact avec mes profs. Ce qui m'a toujours bloqué, c'était de confier mes cours à quelqu'un d'autre. Je voulais être toujours sûre que le cours est tip-top, super, et que ça se passe bien. Et au moment où je commençais à avoir des supports pour en être sûr, j'ai commencé à chercher des profs en Pologne qui voulaient travailler avec les petits enfants. Et là, c'était au moment où j'étais sûre que j'avais déjà un CD enregistré, des jeux commandés, et fabriqués, des scénarios finis. Bah, maintenant, ces scénarios ont déjà changé, je les ai améliorés, mais c'était déjà prêt à être utilisé par les autres. Et j'ai commencé tout doucement. Toujours méfiante avec mes copines. Donc il y avait la première c'était Sandrine Jacques qui tient à l'école l'atelier de français. On s'est connectés parce que je travaillais chez elle après mon retour de France. Donc elle, quand elle a appris que le support était prêt, elle a tout de suite acheté quoi. Elle m'a dit ok, on va, on s'est connectés. Donc après il y a une copine de Zambie qui est à côté de Varsovie, Katakombou. Et à dire que ça devrait pas. Donc, en fait, c'était la clé de la franchise, c'était ridicule, en fait ridicule. Je veux pas dire ridicule, c'était très bas. Mais moi, excusez-moi, je voulais pas le dire. En fait, je veux dire que c'était moi qui voulais que quelqu'un achète. Tu comprends?
Ouais, je comprends.
J'avais une idée. J'avais une idée. Je l'ai réalisée. J'ai eu mes supports. Et maintenant, je voulais que les personnes compétentes commencent à travailler avec et qu'elles me payent pour ça. Tu vois? Donc c'était le moment, je veux pas dire décisif, mais très important dans un business. Et comment on s'est connecté? Ça a coïncidé avec le stage à Paris chez Christine Macquart. Donc là, j'ai eu l'occasion, j'y suis allée, je ne le cache pas, j'y suis allée surtout pour présenter ma méthode, bien sûr. J'ai réussi, donc après les filles, on réfléchit, et voilà, j'ai eu mes premières franchises. Donc on était à quatre. Donc j'ai pu déjà dire, voilà, on est là, là et là. Et tout doucement, en fait, le marketing, je n'y connais pas. Et je commence à apprendre tout doucement. Et c'est vrai que c'était le jour qui me contactait spontanément, comme ça, même si je faisais pas le positionnement, voilà, à mes tantes, madame, comment vous faites? Donc, je proposais, donc, un prix pour le kit. Et ça s'est développé comme ça, tout doucement, deux, trois personnes par l'année, ont rejoint le réseau. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai tellement investi, parce que les personnes qui ont acheté au début, elle avait vraiment acheté, c'est pas même pas un quart, c'était je sais pas comment on dit, hein, une partie de, je sais pas, si tu partages le prix par 10, c'était vraiment juste,
Un huitième.
voilà, c'est ça. Voilà, donc je veux dire, c'était vraiment le début. Après, bien sûr, je leur ai fourni le reste. Mais je veux dire, ça s'est développé. Et après, le prix a changé. Je commande plus de jeux. Je développe la méthode pour les enfants de 7-8 ans. J'ai toujours plein de projets. Je suis un peu limitée par le temps et par les gens qui peuvent faire quelque chose pour moi. L'argent aussi, ça c'est clair. Les films qui sont faciles de l'argent. Mais les idées, j'en ai. Voilà. Et du coup, on a déjà... il y a une quinzaine de profs en Pologne qui utilisent ma méthode. Ils sont dans le réseau. Et tout doucement, bah, j'espère en fait sur le marché mondial. J'ai un premier contact, mais j'espère qu'on va voir. Parfois, je dis, ah, ça c'est vendu, et après ça marche pas, donc je vais pas encore le dire. Mais c'est vrai qu'il y a déjà deux pays qui m'ont contacté, et je vois une possibilité de coopérer.
D'accord. Et donc pour te contacter, si on est intéressé par la méthode et si on veut faire partie de la franchise, donc on passe par le site. Je mettrai les liens vers ton site.
M'écrit, il y a des profs qui m'écrivent comme ça spontanément. J'ai eu évidemment de l'Espagne, de Grèce. Quand je cherche des partenaires à long terme. Donc c'est vrai que c'est pas pour tout le monde. Il y a des profs qui veulent s'investir surtout dans l'enseignement des petits. Je pense qu'au niveau économique, c'est très bénéfique. Au moins en Pologne, c'est bénéfique, on peut le dire. Ça apporte beaucoup de joie et de l'argent aussi. Je ne connais pas le marché à l'étranger, donc ça dépend fortement de la situation de la personne et du pays. Mais ce que je fais, je réponds en mail. On me pose des questions, on se présente, voilà, je suis un prof, je voudrais savoir plus. J'écris donc, j'envoie à ce moment-là des liens sur la présentation des supports, la description du site. Et je propose souvent un entretien parce que bon, il n'y a pas eu autant de demandes pour l'instant, mais à quelques personnes, j'ai proposé un entretien sur Skype. Et après, ça se passe, c'est vivant, quoi, ça se passe.
Voilà, bah en tout cas, on retrouvera donc tous les liens vers le site sur le blog des arts du flip.net et dans les notes de l'émission. Comme ça, tous ceux qui veulent te contacter, eh bien, pourront le faire via ton formulaire de contact. Merci beaucoup, Agatha, c'était très intéressant.
Merci beaucoup, c'était très intéressant pour moi, même si j'étais un peu stressée.
Bah ouais, bah écoute, je te souhaite une bonne continuation à toi et à ta méthode, et puis aux deux mascottes, Minia et Yaroslav. Et à bientôt.
Je vais te
Et on va passer maintenant au point tech. Alors dans le point tech de ce numéro 20, eh bien je voulais vous parler de Babla, bab.la. Alors Babla, c'est un dictionnaire, mais c'est un peu plus que ça, comme vous verrez, un dictionnaire de traduction disponible en 26 langues et gratuit. Donc la fonction dictionnaire, c'est assez simple, hein, vous tapez un mot et puis vous choisissez le dictionnaire que vous voulez, anglais, français, français, espagnol, allemand, italien, ce que vous voulez, et puis vous aurez la traduction jusque-là bien, rien de bien révolutionnaire. Si vous allez un petit peu plus loin dans cet outil, eh bien vous verrez qu'il y a plein d'autres options. Il y a notamment une partie vocabulaire où vous avez des exercices que vous pouvez faire et vous pouvez aussi créer des exercices. Donc des petits exercices de vocabulaire. Alors c'est assez basique, hein. Vous tapez un mot, vous tapez sa traduction, enfin vous trouvez sa traduction, et puis en fait l'exercice consiste à regarder le mot, essayer de trouver la traduction et à vérifier par vous-même, et vous dites si vous avez eu bon ou faux, et ça vous calculera un score. Un peu plus loin dans les rubriques, vous aurez aussi une rubrique phrase. Alors cette fois, c'est un peu différent. C'est pas simplement taper une phrase pour qu'elle soit traduite. Vous pouvez la choisir par catégorie. Donc vous avez cinq catégories qui sont candidature, académique, affaires, personnel, voyage. Et dans ces catégories, vous avez des sous-catégories. Par exemple, si vous allez dans personnel, vous aurez lettres, courriel, faire-part, invitation, meilleurs vœux, etc. Et si vous choisissez une de ces catégories, eh bien là, vous aurez un vrai outil pour vous aider à construire vos cours. Par exemple, si je prends la rubrique lettres, eh bien je vais avoir tout un tableau avec les adresses. Donc là, moi, j'ai choisi la langue français vers l'anglais. Donc vous aurez une colonne français, une colonne anglais et une colonne description. Et le tout sera réparti en différentes lignes. Donc là, vous aurez lettres adresse, lettres ouverture, lettres corps de texte, lettre fermeture. Pour chacune de ces lignes, eh bien, vous aurez différentes façons de vous exprimer. Donc pour les adresses, c'est différentes façons d'écrire les adresses, et puis ensuite la traduction en face, et on vous explique quel est le format. Donc là, pour l'adresse, par exemple, je vais avoir Claire Beaulieu à la ligne 18, rue du Bac, à la ligne 75 500, Paris. En face, on va m'expliquer comment on écrit l'adresse pour les Américains. Donc on aura le monsieur, donc avec l'abréviation, l'initiale pour le prénom, le nom de famille, à la ligne 335 Main Street, à la ligne New York, NY et 92 926. Et là, on vous explique après, dans la troisième colonne description, les informations que vous devez mettre et puis la disposition. Dans la rubrique couverture, eh bien, on vous donnera pareil des formules de salutation. Cher Benjamin, Dear John, coucou, etc. Et dans la colonne description, on vous donnera des informations sur le registre de langue. Est-ce que c'est formel, informel, la relation que vous avez avec le destinataire. Même chose pour le corps du texte et même chose pour la fermeture. Vous avez donc les formules de politesse, les formules de salutation, et puis on vous explique quand on les utilise. Alors évidemment, le tout est téléchargeable en PDF, et comme ça, eh bien, vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez dans vos cours. Et puis, c'est toujours un peu fatigant, hein, quand on doit travailler sur les écrits, la correspondance. Ben là, ça vous fait de jolis rappels qui sont prêts à l'emploi. Il y a encore une autre rubrique sur Babla, qui est la rubrique conjugaison. Là, cette fois, vous pouvez rechercher par langue et par combinaison linguistique. Donc quand vous cherchez par langue, vous avez juste un conjugueur, ce qui est déjà assez pratique, mais pas tellement novateur. Et si vous faites une recherche par combinaison de langues, là vous choisirez donc la combinaison qui vous intéresse, et puis vous aurez tout simplement un tableau de conjugaison avec deux colonnes, une en français et la correspondance en anglais ou en espagnol selon les dictionnaires que vous avez choisis. Il y a encore d'autres choses avec cet outil Babla. Il y a un outil quiz. Donc là aussi, vous aurez différentes catégories, compréhension orale, conversation, flirter, séduire, grammaire, histoire et culture, etc. Vous choisissez la langue que vous parlez, la langue que vous voulez apprendre, le niveau, vous pouvez même chercher des mots-clés, et puis eh bien vous avez des petits quiz à réaliser, et vous pouvez aussi les apprécier, donc mettre des notes sur ces quiz. Vous trouvez aussi des jeux comme un Pendu, un Memorize, un Match It ou l'art italien. Il faut regarder les images et sélectionner la bonne réponse. Un autre outil qui peut vous intéresser sur ce site, c'est l'outil syntaxe. Alors là, c'est pas mal du tout parce que vous allez taper un verbe, par exemple, et puis lui, il va rechercher donc dans une base de texte, dans tout un corpus, l'utilisation de ce mot. Donc si vous tapez par exemple travailler, eh bien vous aurez toutes les utilisations de travailler, et donc vous aurez les prépositions qui suivent. Travailler pour, travailler dans, travailler à, travailler avec, etc. Et donc ça peut vous aider aussi parfois pour travailler le vocabulaire dans des activités de cours. Si vous voulez travailler sur les prépositions, je trouve toujours important, moi, de mémoriser les verbes avec leurs prépositions. Eh bien, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir la liste des prépositions qui sont utilisées avec certains verbes qui concernent votre cours. Donc là, ça vous facilite un petit peu la tâche. Babla propose aussi un service de traduction professionnelle. Donc là, c'est payant. Vous tapez votre texte et puis il vous fait une estimation du prix. Et si vous avez besoin donc d'une traduction, ça peut toujours vous intéresser. La dernière chose assez utile dans Babla, c'est les applications et les plugins. À savoir que vous pouvez rajouter donc sur Firefox ou Chrome, eh bien, des petits plugins pour avoir le dictionnaire à portée de main. Vous pouvez aussi utiliser des widgets. Donc, si vous avez un site, un blog, eh bien, vous pouvez ajouter des petits dictionnaires sur votre site. Vous choisissez le format, vous choisissez les langues, et puis vous pouvez aussi d'ailleurs dans la sélection langue tous. Donc, si votre site est en français, vous choisissez langue français. Vous choisissez le dictionnaire tous et puis vous aurez comme ça pour vos visiteurs tous les dictionnaires de traduction disponibles. Et aussi pour votre blog, vous pouvez aussi utiliser des widgets tests. Donc là, vous pourrez avoir les quiz et les tests directement sur votre site si vous le souhaitez. Et enfin, pour Firefox, vous pouvez rajouter une barre de navigation qui sera consacrée à Babla. Voilà, c'est à peu près tout pour cet outil. Il n'est pas révolutionnaire, mais il a quand même beaucoup de choses assez intéressantes et qui peuvent vous aider parfois dans la construction de vos cours ou tout simplement pour rechercher du vocabulaire. Et il peut aussi aider d'ailleurs vos apprenants. Et puis vous pouvez bien sûr ajouter tout ça sur votre blog personnel ou votre blog de classe. Voilà, c'est terminé pour ce point tech et on va passer maintenant à la rubrique fourre-tout. Et on commence cette rubrique fourre-tout avec les éditions de la Maison des Langues qui proposent la Minute FLE. La Minute FLE, c'est un rendez-vous pédagogique en ligne, donc c'est une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner et vous allez avoir ainsi donc les nouveautés des éditions de la Maison des Langues, mais pas seulement, parce que vous avez pas mal aussi d'idées pour la classe avec des exploitations à télécharger. Et là justement pour les enfants, il y a une petite fiche pédagogique que vous pouvez utiliser pour la rentrée avec eh bien des activités pour se présenter, des activités pour connaître le vocabulaire de la classe, etc. Donc c'est très bien fait, une belle mise en page, c'est joli. Et puis ça vous fait déjà quelques idées pour vos cours et puis aussi un beau document à utiliser. Et vous avez en plus de cette fiche, eh bien, des indications pédagogiques sur comment faire pour utiliser cette fiche. Alors évidemment, elle est recommandée en général avec des produits édités par la Maison des Langues. La fiche dont je vous parle, elle est recommandée pour le niveau 1 de Zoom. Et puis, il y a aussi des exploitations de chansons recommandées avec les livrets et CD de chansons édités par la Maison des Langues. Mais quand même, c'est quand même un chouette produit qui est proposé ici. Alors pour la rentrée, je vous recommande aussi le site Fan de FLE par Pierson. Alors je ne sais pas exactement comment elle prononce ça, mais elle a une super page Facebook aussi. Alors là, c'est Pierre FLE qui a créé cet article et qui nous propose trois idées pour bien commencer l'année scolaire. La première des idées, c'est de préparer des activités brise-glace. Donc là, il nous donne ainsi trois sites pour aller chercher des activités brise-glace. Il y a le blog Bonjour du Monde, il y a l'Institut français, et il y a aussi un autre site avec des icebreakers à télécharger en PDF qui sont bien détaillés et puis très bien adaptés pour le FLE. Il nous conseille aussi de préparer un projet de classe. Là, il nous propose de créer un blog, mais aussi d'aller voir le programme eTwinning qui a été créé par la Commission européenne et qui permet de partager des idées et de créer des projets ensemble. Donc là, c'est vraiment quelque chose à aller voir aussi. Et enfin, sur la troisième idée, il nous propose d'établir une stratégie pour prévenir les problèmes de discipline. Donc là, c'est des petits conseils comme garder le contact visuel, faire un contrat avec des règles à respecter, des routines de travail, etc. Donc c'est vraiment intéressant à lire si vous avez peur un peu de commencer l'année de manière catastrophique. Enfin, j'irai pas jusque-là, mais ça peut vous aider en tout cas à bien entamer votre année scolaire. Alors pour la rentrée, une activité qui peut être amusante aussi, c'est de travailler sur les clichés. Et je suis justement tombé sur le site de Cédric Villain, qui nous a fait une magnifique vidéo de 6-7 minutes sur les clichés français. Et donc ça peut être intéressant de travailler sur ces clichés en voyant ce qui, selon vous, est vrai et ce qui est faux. C'est une vidéo très très bien réalisée que vous pouvez retrouver sur YouTube, mais aussi télécharger complètement gratuitement sur son site. Donc je vous recommande d'aller voir ça et de voir ce que vous pouvez en faire comme support de cours. On continue avec le site de Ma José. Alors vous savez que je suis un grand fan de son blog Tisse en Fleu. Et là, elle a fait un dossier sur la rentrée scolaire avec quelques activités qu'elle vous propose. Donc des activités sur le vocabulaire, des activités avec des comptines, des activités pour communiquer en classe, des activités sur les fournitures scolaires. Il y a des vidéos, des activités de compréhension écrite, de compréhension orale, il y a de l'humour. Et tout ça, elle le décline pour les niveaux A1, A2, B1, B2, et il y a vraiment tout un tas de supports. Il y a des films, des bandes dessinées, des humoristes, du web, avec des vidéos de Cyprien, par exemple. Il y a des fiches un petit peu plus techniques sur les expressions utilisées à l'école. Il y a des suggestions d'activités, donc vraiment un gros dossier encore à découvrir, où elle réunit à peu près une dizaine de sources. Elle vous les classe par niveau et elle vous les classe aussi par activité. Donc encore un grand merci à Marie-Josée et son super site Tisse en Fleu. Et pour terminer cette rubrique fourre-tout, je vous propose d'aller faire un tour du côté de la boîte à fleu où on nous propose des activités autour des vacances du petit Nicolas. Donc c'est pas mal aussi à la rentrée de parler des vacances. Donc là, on vous propose une présentation un petit peu de l'œuvre du petit Nicolas, un travail autour de la bande-annonce avec des expressions qu'on entend dans la bande-annonce. Il y a aussi une activité de compréhension pour voir si on a bien compris le sujet du film et une petite activité sur le vocabulaire de la plage et une présentation des livres. Alors c'est pas mal de travailler là-dessus, surtout que le petit Nicolas, bah, c'est assez simple à lire. Donc si vos apprenants veulent se lancer un petit peu dans la lecture, c'est peut-être une bonne entrée aussi de lire Les Vacances du petit Nicolas. C'est pas désagréable. Moi je sais que j'ai plusieurs apprenants qui ont déjà apprécié ces œuvres. Donc une bonne idée ici du côté de la boîte à fleu. Et merci donc à Pascal Duvigneau qui s'occupe de ce site. Voilà, c'est terminé pour la rubrique fourre-tout, c'est terminé aussi pour César du Fleu numéro 20. Vous retrouverez bien sûr tous les liens cités dans les notes de l'émission et puis sur le blog des Arts du Fleu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, que ce soit sur le site ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, etc. N'oubliez pas que pour nous soutenir, vous pouvez bien sûr toujours faire un don ou mettre des étoiles sur iTunes, 5 de préférence, et puis laisser un petit commentaire. Le prochain numéro portera sur l'utilisation de l'iPad en classe de FLE avec Laurent Carlier, et puis le numéro suivant, bah, lui portera sur la classe inversée avec Sophie Lhomme qui viendra nous parler de son expérience. Et pour ce numéro 22, donc sur la classe inversée, vous pouvez bien sûr aller dans la rubrique annonce du blog des Arts du FLE et laisser vos questions soit dans les commentaires, soit là aussi sur les divers réseaux sociaux. Merci encore à tous, je vous dis à bientôt et d'ici là, bon cours!